Dernier souvenir. Maman n'existait plus. Mais notre vie se poursuivit de la même façon. Nous nous levions et nous nous couchions à la même heure et, dans la même chambre, chaque matin et chaque soir, le dîner, le souper, tout était réglé de la même façon. Les tables, les chaises étaient à la même place. Rien n'était changé aux conditions de notre vie ordinaire. Mais elle manquait. Il me semblait qu'après un pareil malheur, tout devait se transformer. La routine de notre vie habituelle me paraissait blessante pour son souvenir et me rappelait plus vivement son absence. La veille de l'enterrement, après le dîner, je voulus dormir. J'allais dans la chambre de Natalia Savichna, content de retrouver ma petite place sur son lit, sur le doux matelas de plumes, sous les chaudes couvertures ouatées. Quand j'entrais, Natalia Savichna était étendue sur son lit et probablement sommeillait. Elle entendit le bruit de mes pas et ouvrit les yeux. Puis, elle jeta les mouchoirs de laine qui la couvraient pour la préserver des mouches et, ayant arrangé son bonnet, elle s'assit sur le lit. Comme il m'était arrivé plus d'une fois, tant avant qu'après le dîner, de venir dormir dans sa chambre, elle comprit pourquoi j'étais venue et me dit « Quoi ? Probablement vous êtes venu pour vous reposer, mon pigeon ? Couchez-vous. » « Mais non, Natalia Savichna, dis-je en la retenant par la main. « Je ne suis pas du tout venue pour cela. Je suis venue comme cela. Mais vous êtes fatiguée. Couchez-vous plutôt. »« Non, petit père, je ne dormais pas, » répondit-elle. Je savais qu'elle ne dormait pas depuis 3 nuits. « Ce n'est pas le moment de dormir, » ajouta-t-elle avec un profond soupir. J'avais grande envie de causer avec Natalia Savichna de notre malheur. Je connaissais sa sincérité et son amour. Et c'eût été pour moi un véritable soulagement de pleurer avec elle. « Natalia Savichna, » dis-je après une pause et d'un air absorbé, « vous étiez-vous attendue à cela ?» La vieille femme me regarda avec un mélange d'étonnement et de curiosité. Probablement, elle ne savait pas ou ne comprenait pas pourquoi je faisais cette question. « Qui pouvait s'attendre à cela ? » répétai-je. « Ah, mon petit père, » dit-elle, jetant sur moi un coup d'œil sympathique et attendri. « Non seulement on ne pouvait pas s'y attendre, mais même aujourd'hui, je ne peux pas y penser à cela. À moi, vieille femme, oui. Il aurait fallu depuis longtemps mettre mes os au repos. Mais voilà. Jusqu'à quand survivrai-je, Dieu seul le sait, le vieux Barine, votre grand-père, souvenir éternel. Le prince Nikolaï Mikhaïlovitch, 2 sœurs, la sœur Anouchka. Je les ai tous enterrés, et tous étaient plus jeunes que moi. Et voilà, probablement pour mes grands péchés, ma destinée est de leur survivre à tous. Que sa sainte volonté soit faite. Il l'a prise probablement parce qu'elle en était digne, car il a besoin là-haut de bonnes âmes. Cette simple idée me frappa doucement et je m'approchai plus près de Natalia Savichna. Elle me mit les mains sur la poitrine et éleva ses regards au ciel. Ses yeux enfoncés et humides exprimaient un grand, mais tranquille désespoir. Elle espérait fermement que Dieu ne l'avait pas séparée pour longtemps de celle sur laquelle, pendant tant d'années, s'étaient concentrées toutes les forces de son amour. « Oui, mon petit père, il y a donc si longtemps que je la berçais, que je l'emmaillotais et qu'elle m'appelait Nachik, » diminutif de Natalia. Elle courait comme ça autour de moi, m'entourait comme cela le cou de ses petites mains et m'embrassait si gentiment en disant « Oh, ma petite Nachik, ma petite beauté, ma petite dinde !» Et moi, je plaisantais comme cela et je lui répondais « Pas vrai, ma petite mère, vous ne m'aimez pas, voilà !» Quand vous grandirez, vous vous marierez et vous oublierez votre Natcha. » Et elle se prenait à songer. « Non, disait-elle, je ne me marierai pas du tout si on ne peut pas prendre Natcha avec. Non, je n'abandonnerai jamais Natcha. » Et voilà qu'elle m'abandonne, elle, sans prendre même le temps de m'attendre. Comme elle m'aima, la défunte. Et qui n'a-t-elle pas aimé ? Disons la vérité, oui, petit père. votre maman. Vous ne devez pas l'oublier. Ce n'était pas une créature de la terre, c'était un ange du ciel. Quand son âme sera dans le ciel, elle vous aimera là aussi. Elle se réjouira avec vous. Et pourquoi dites-vous, Natalia Savishna, quand elle sera dans le ciel? Est-ce qu'elle n'y est pas déjà? Non, mon petit père, fit Natalia abaissant la voix et se rapprochant de moi sur le lit. En ce moment, son âme est ici. Et elle faisait le geste en haut. Elle parlait, chuchotant presque, et cela avec une telle assurance qu'involontairement je levai les yeux et regardai la corniche, comme pour y chercher quelque chose. Avant que l'âme du juste aille au paradis, il lui faut auparavant traverser jusqu'à 40 épreuves, mon petit père. Elle peut donc être encore pendant 40 jours dans sa maison. Elle me parla longtemps ainsi, dans le même sens, avec une telle simplicité, une si grande assurance qu'il semblait qu'elle racontât des choses ordinaires qu'elle avait vues elle-même et dont il était impossible de concevoir le moindre doute. Je l'écoutais en retenant ma respiration et sans bien comprendre ce qu'elle disait, je la croyais entièrement. « Oui, mon petit père, en ce moment elle est ici, elle nous regarde, elle nous écoute, oui. Elle écoute peut-être ce que nous disons. » Et, inclinant la tête, elle se tut. Elle avait besoin d'un mouchoir pour essuyer ses larmes qui coulaient. Elle se leva, me jeta un coup d'œil droit dans la figure et me dit d'une voix tremblante, tant elle était émue, « Le bon Dieu me rapproche comme cela très fort de lui. Que me reste-t-il à faire ici maintenant? Pour qui vivrai-je? Qui aimerais-je? Mais nous, est-ce que vous ne nous aimez pas ? Dis-je sur un ton de reproche et retenant mes larmes. Dieu sait comme je vous aime, mes petits pigeons. Mais comme je l'aimais, je n'ai jamais aimé et je n'aimerai jamais. Ne pouvant plus parler, elle se détourna et sanglota bruyamment. Je ne pensais plus à dormir. Nous restâmes comme cela, l'un et l'autre, pleurant. Foka entra dans la chambre. Quand il nous aperçut ainsi, il eut peur de nous déranger et resta sur le seuil, timide et muet. « De quoi as-tu besoin, Foka ? » demanda Natalia Savishna en s'essuyant les yeux et le visage avec son mouchoir. « Il me faudrait 1/2 livre de Malaga, 4 livres de sucre et des grains de riz pour faire la koutia. » « tout de suite, mon petit père, » fit Natalia Savishna en prenant un peu de tabac dans sa tabatière. Et, avec des petits pas rapides, elle se dirigea vers un coffre. Le dernier vestige du chagrin produit par notre entretien avait disparu. Elle s'occupait de son devoir qu'elle considérait comme très important. « Et pourquoi 4 livres ? » dit-elle en grommelant, pesant et repesant le sucre. « Ce sera assez avec 3,5. » Et elle enleva du plateau ce qu'elle jugeait en trop. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà hier, je donnais 8 livres de riz. » Et on m'en redemande aujourd'hui. Ah, comme tu y vas, Foka Demidic. Je ne donnerai plus que juste ce qu'il faudra. Cette Vanka est une prodigue, une brouillon dans la maison. Elle pense qu'on n'y verra rien. Non, je ne donnerai pas comme ça le bien des barines inutilement. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça ? 8 livres ? Mais comment faire alors ? Elle dit que tout est consommé. « Eh bien, voilà. Prends, pour cette fois. » Je demeurai frappée par ce contraste étrange qui, en si peu de temps, s'était manifesté chez Natalia. Un instant avant, la douleur, le désespoir en ses plus tragiques épanchements, et tout à coup la réalité, en ses plus mesquines étroitesses. En réfléchissant par la suite, je compris que ce poids qu'elle avait sur le cœur n'avait pas enlevé à Natalia sa conception du devoir à remplir, et que, d'ailleurs, la force de l'habitude la ramenait à ses occupations journalières. Le chagrin l'avait empoignée, au point qu'il ne lui vint pas à l'idée de cacher qu'elle était capable néanmoins de s'intéresser à sa besogne habituelle. Elle aurait été incapable même de comprendre comment pouvait venir une pareille idée. L'amour-propre est certainement le sentiment le plus incompatible avec le vrai chagrin. Et, d'autre part, il est si bien inhérent à la nature humaine qu'il est fort rare qu'un chagrin soit assez violent pour réussir à le chasser. L'amour-propre dans le chagrin se manifeste par le désir de paraître chagrin, ou malheureux, ou stoïque. Et ce désir bas que nous nous gardons d'avouer, mais qui, dans les plus grandes douleurs même, ne nous quitte pas, ce désir enlève au chagrin sa force, sa sincérité, sa dignité. Quant à Natalia, elle était si profondément frappée que son âme était pour jamais vide de désir, et qu'elle ne devait de suivre qu'à la force de l'habitude. Après avoir donné à Foka les provisions qu'il réclamait, et lui avoir recommandé le gâteau destiné au chantre, elle le laissa aller, reprit son bas, et vint se rasseoir près de moi. Et la conversation recommença sur le même sujet. Et de nouveau, nos pleurs coulèrent, et nous essuyâmes nos larmes. Ces entretiens avec Natalia se renouvelèrent chaque jour. Ses larmes paisibles et ses pieuses causeries régulières produisaient sur mon âme l'effet des meilleures consolations. Mais bientôt, il fallut se séparer. 3 jours après l'enterrement, toute la maison et nous-mêmes partîmes pour Moscou. Et je ne devais plus la revoir. La babouchka ne connut la triste nouvelle qu'avec notre arrivée, et son désespoir fut excessif. On ne put nous laisser à la maison, car elle fut presque une semaine entière sans connaissance. Les docteurs craignirent pour sa vie, car non seulement elle se refusait à prendre tout remède, mais elle ne parlait plus à personne, ne dormait plus, ne mangeait plus. Quelquefois, seule dans sa chambre, sur son grand fauteuil, elle sanglotait sans larmes. Puis les convulsions la prenaient, et elle criait d'une voix stridente des mots sans suite, des mots horribles. C'était le premier grand chagrin qui la frappait, et ce chagrin, naturellement, la menait au désespoir. Il lui fallait accuser quelqu'un dans son malheur. Certains jours, elle se prit tout à coup à menacer autour d'elle, gesticulant avec une force extraordinaire, disant d'affreuses paroles. Puis, quittant son fauteuil, elle se mit à arpenter la chambre à grands pas précipités. Et enfin, elle tomba sans connaissance. Un jour, j'entrai dans sa chambre. Elle resta comme à l'ordinaire dans son fauteuil et paraissait tranquille. Mais son regard me frappa. Ses yeux étaient grands ouverts, mais le regard était morne, sans vie. Elle me regarda droit, mais certainement ne me vit pas. Ses lèvres commencèrent lentement à sourire et elle se prit à parler d'une voix tragique, et touchante. Viens ici, cher ami, viens, mon ange. Je pensais qu'elle s'adressait à moi et je m'approchais, mais elle ne me regardait pas. Ah, si tu savais, mon âme, comme j'ai été tourmentée et comme je suis à présent heureuse que tu nous sois revenue. Je compris qu'elle s'imaginait voir maman et je ne bougeais pas. On m'a dit que tu n'es plus. Continua-t-elle en fronçant les sourcils. Oh, voilà des bêtises! Est-ce que tu peux mourir avant moi? Et elle se prit à éclater d'un effroyable rire. Les gens qui aiment fortement sont seuls susceptibles d'éprouver des douleurs très vives. Et la même nécessité d'aimer leur sert à supporter le chagrin et leur permet également d'en guérir. Pour cette raison, la nature morale de l'homme est plus vivace que sa nature physique. Le chagrin ne tue jamais. Une semaine entière se passa avant que la babouchka pût pleurer. Par ce fait, elle se trouva mieux. Ses premières idées, quand elle revint à elle, se reportèrent sur nous, et son amour pour nous se trouva comme accru de sa précédente indifférence. Nous ne quittions pas son fauteuil. Elle pleurait tranquillement, parlait de maman, et nous caressait tendrement. Personne n'aurait pu croire, en voyant l'expression du chagrin de la babouchka, que l'intensité de sa douleur, dans le fond, aurait pu être appréciée en sens inverse de ses manifestations. Peut-être sentais-je ces choses, car je compatissais davantage à la douleur de Natalia Savishna, que je ne voyais plus, et qui avait eu une si puissante et si heureuse influence sur la direction et le développement de mes sentiments. Oui, je suis sûre maintenant que personne n'a jamais aimé maman si fortement, si noblement, et ne l'a regrettée d'une façon aussi touchante et aussi amère que cette noble et aimante créature. Ce grand événement de la mort de maman clôtura pour moi la période de mon enfance et fit place à cette nouvelle phase de ma vie, l'adolescence. Mais comme le souvenir de Natalia Savishna, que je n'avais plus revue et qui avait eu une si chaude influence sur le développement de mes sentiments, appartient à la première époque, j'ajouterai ici quelques mots sur elle et sur sa mort. Après notre départ, comme me l'ont par la suite raconté ceux que nous avions laissés à Petrovskoye, Natalia s'ennuya beaucoup de ne rien faire. Le bruit et le souci de la maison du baril ne lui manquaient, de cette maison de campagne dans laquelle elle avait été habituée dès l'enfance. Le chagrin, le changement d'habitude, l'absence de vie et de mouvement autour d'elle développèrent chez la pauvre femme une maladie de vieillard à laquelle elle était certainement prédisposée. Juste un an après la mort de maman, l'hydropisie se déclara et elle s'alita. Je pense qu'il était difficile pour Natalia Savishna de vivre, et plus difficile encore de mourir seule dans la grande et vide maison de Petrovskoye, sans parents et sans amis. Tout le monde, en effet, dans la maison aimait et estimait Natalia Savishna, quoiqu'elle ne se liât d'amitié avec personne, ce dont elle était fière. Elle croyait que, dans sa position d'économe, qui a toute la confiance de ses barines, et entre les mains de laquelle sont tant de responsabilités, tant de mal avec tant de richesse, l'amitié avec quelqu'un aurait pu conduire à certaines faiblesses, à certains compromis. C'est pour cette raison, ou peut-être même parce qu'elle n'avait en réalité rien de commun avec les autres serviteurs, qu'elle se tenait à côté de toute camaraderie, disant qu'elle n'avait dans la maison ni compère ni parent, et que, pour rien au monde, elle ne permettrait qu'on touchât au bien des barines. En confessant à Dieu, dans la ferveur de sa prière, ses sentiments, elle chercha et elle trouva le soulagement. Mais quelquefois, en de ces moments de faiblesse auxquels nous sommes tous sujets, quand le meilleur soulagement est, pour l'homme, les larmes et la compassion aux souffrances des autres, elle mettait sur son lit son petit chien Mosca, qui lui léchait les mains en les fixant de ses yeux jaunes, lui parlait et, en pleurant, le caressait tranquillement. Quand Mosca commençait à gémir plaintivement, elle s'efforçait de le calmer, disant « Laisse donc, je sais que même sans toi, je mourrai bientôt. » Un mois avant sa mort, elle sortit de sa malle de la crétonne blanche, de la mousseline blanche et des rubans roses. Et, aidée de sa jeune servante, elle se fit une robe blanche, un bonnet, et commanda jusqu'au moindre détail pour son enterrement. Elle mit également en ordre les malles des barines et, avec le plus grand scrupule de conscience, remit tous ses comptes à la gérante. Puis, elle s'occupa à qui laisser des robes de soie, un vieux châle que la babouchka lui avait jadis donné, l'uniforme du grand-père brodé d'or qui, également, avait été laissé à sa complète disposition. Grâce à ses soins, la broderie et le galon de l'uniforme étaient encore parfaitement frais et le drap non attaqué par les mites. Avant la fin, elle exprima le désir qu'on donnât une de ses robes, la rose, à Volodia, pour une robe de chambre, ce qui se dit Beshmet. L'autre, couleur perse, à carreaux, à moi, et pour le même usage. Et le châle, à Lubiotchka. L'uniforme, elle le légua en héritage à celui de nous deux qui deviendrait officier. Tous ses autres biens, hormis 40 roubles qu'elle mit de côté pour l'enterrement et pour les messes, elle les laissa à son frère qui était depuis longtemps libre et qui habitait un gouvernement éloigné où il menait la vie la plus dévergondée. C'est pour cette raison qu'en ces dernières années de sa vie, elle eut si peu de rapport avec lui. Quand ce frère se présenta pour recevoir les biens de la défunte, il trouva 25 roubles en papier. Il ne voulut pas croire que ce fût là tout l'héritage et disait qu'il était impossible qu'une vieille femme qui a passé 60 ans dans la maison d'Abarine, qui a eu tant de charges en les mains, et a vécu toute sa vie comme un avare tremblant pour le moindre chiffon, ne laissa pas davantage. C'était ainsi, pourtant. Natalia Savishna souffrit beaucoup pendant les 2 mois que dura sa maladie et supporta ses souffrances avec la résignation d'une vraie chrétienne. Elle ne murmura pas, elle ne se plaignit pas. Seulement, par habitude, elle répétait sans cesse « Dieu ». 1 heure avant la mort, elle se confessa avec une joie sereine. Elle communia et reçut les derniers sacrements. À tous les membres de la maison, elle demanda pardon des torts involontaires qu'elle avait pu leur faire et pria son confesseur, le père Vassili, de nous dire à tous qu'elle ne savait comment nous remercier de nos bienfaits, qu'elle nous priait de lui pardonner si, par sa sottise, elle avait chagriné l'un ou l'autre de nous. Mais voleuse, je ne l'ai jamais été, et je puis dire que je n'ai fait tort, même d'un fil ou bien des barines. C'était le seul bon côté que la brave Natalia reconnaissait en elle. Elle revêtit la robe qu'elle avait préparée, le bonnet, et, appuyée sur des coussins, elle ne cessa, jusqu'à la fin, de s'entretenir avec le prêtre. Se souvenant qu'elle n'avait rien laissé aux pauvres, elle remit au prêtre 10 roubles, le priant de les distribuer à l'église. Puis, elle fit un signe de croix, se coucha et exhala son dernier souffle, en prononçant le nom de Dieu avec un sourire d'allégresse. Ainsi, elle quitta la vie sans regret, sans effroi de la mort, qu'elle reçut comme un bienfait. On dit souvent cela, mais comme c'est rare, en réalité. Natalia Savishna pouvait ne pas avoir peur de la mort, car elle mourut dans des croyances inébranlables et dans l'accomplissement des préceptes de l'Évangile. Sa vie entière pouvait se résumer ainsi. Pureté, amour désintéressé, dévouement. Et, si ses croyances avaient pu être plus élevées, sa vie dirigée en apparence vers un but plus noble, est-ce que cette âme pure serait devenue pour cela plus digne d'amour et d'admiration? Elle a accompli l'acte le meilleur et le plus grand dans la vie de ce monde, mourir sans regret ni peur. On l'enterra, suivant son désir, non loin de la chapelle qui recouvre la tombe de maman. Un tertre gazonné, où viennent à l'aise les orties et les bardanes, et qu'entoure un simple grillage noir, indique l'endroit où ses os reposent. Non, jamais je n'oublierai, en quittant la chapelle, ma visite à cette tombe si simple. Quelquefois, il m'est arrivé de faire une pause entre la chapelle et le sombre grillage. Alors, tout un monde de lourds, de tristes souvenirs se réveille en mon âme. Cette idée me vient. Est-il possible que la Providence ait uni ma vie à celle de ces 2 chères créatures pour nous séparer ensuite et me forcer à les regretter éternellement?
Thank you.